Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 23 juillet 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, depuis la dernière semaine, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention?
En général, les marchés boursiers continuent de bien performer. On a des hausses cette semaine, 1% partout. Là. Donc, au Canada, aux États-Unis, là, c'est environ 1% de hausse cette semaine. Le TSX, depuis le début du mois, est en hausse de 1,9. Le S&P 500 en hausse de 1,7. Le Nasdaq, 2,6. On va toujours rappeler aux gens, par contre, que le dollar canadien continue de monter. On est à 0,737. Donc, presque 74 sous, c'est une hausse de 5 %. Donc, je comparais ce matin deux FNB du S&P 500 américain. Un hedgé en dollars canadiens, là. Donc là, on élimine l'effet de la devise, et l'autre où on est exposé pleinement à la fluctuation de la devise. Bien, celui qui n'a pas d'impact de devise est en hausse de 7 %, soit le rendement de l'indice cette année, mais celui qui est exposé aux fluctuations du dollar américain est en hausse de seulement 2 %. Donc, on garde toujours ça en tête là, quand on regarde les rendements des portefeuilles. Le marché américain va bien, on voit aux nouvelles, là, c'est des records, oui, c'est vrai. Par contre, pour un investisseur canadien, là, c'est pas aussi bon là, qu'il paraît. De l'autre côté aussi, du côté obligataire, les taux d'intérêt au Canada ont continué d'augmenter. On continue là, de repousser dans le temps les baisses de taux qui sont attendues. Il y a de moins en moins de baisses de taux d'attendues. Donc, on a eu des chiffres d'emploi là, qui étaient très forts la semaine passée. L'inflation est sous contrôle, là, ça va bien, mais on est quand même passé là, de 3,37 sur les obligations 10 ans à 3,52. Donc, c'est bon pour les rendements futurs, pour un nouvel acheteur d'obligations maintenant. Par contre, un acheteur qui a acheté l'indice obligataire universel le 1er janvier, donc qui a acheté l'ensemble du marché obligataire canadien, ben son panier d'obligations canadiennes est en hausse de 0,1% seulement année à jour. C'est bien maigre. L'indice, par contre, d'obligations corporatives, donc là, on va retrouver là-dedans un peu plus des obligations de banque, d'assureurs et tout ça. Ça ressemble un peu plus là, à ce qu'on utilise en général pour beaucoup de clients. Celui-là est quand même en hausse de 1,7% année à jour. Donc, on ne détient pas l'indice là, formellement. Le FNB, là, on détient différents titres, mais c'est quand même assez représentatif là, du genre d'obligations qui sont détenues par beaucoup de nos clients. Fait que ça va quand même correct là, de ce côté-là. Plusieurs choses ont retenu notre attention. Alimentation couche-tard,
oui.
Donc la transaction avec Seven & i au Japon, c'est terminé pour l'instant. Ils se sont retirés, ils ont retiré leur offre d'achat. Le marché était un petit peu en attente. Là. Le titre piétinait là, depuis le début de l'année. On était même en baisse de 10-12% année à jour sur couche-tard. Suite à cette annonce-là, ben, c'était bien reçu par les marchés. Donc, couche-tard ne va pas se surendetter pour acheter. Ils n'ont pas surpayé pour la transaction. Le titre a augmenté d'environ une dizaine de dollars là, depuis ce temps-là. Fait que ça fait du bien aux détenteurs de couche-tard. Plusieurs titres ont fait des nouveaux sommets comme PowerCorp, BMO, Microsoft, Nvidia. On a eu, CN hier qui a annoncé des résultats financiers somme toute adéquats. Par contre, ils ont aussi annoncé là, des prévisions de profit pour les prochains trimestres un petit peu en baisse en raison des tarifs. Donc, là, on s'attend à ce que le titre transige un peu à la baisse ce matin. Rien de majeur, mais quand même, là, si ça peut baisser de 4-5 %, on n'en serait pas surpris. Et puis, il va y avoir d'autres résultats financiers attendus là, dans les titres que beaucoup de nos clients détiennent, entre autres Alphabet, Google là, et Waze Connection. Puis, il y a Tesla aussi. Là, on a moins de clients qui ont ça. On n'en a pas vraiment, là, mais c'est quand même un titre qui est suivi par les marchés puis qui a souvent un impact important sur les marchés. Et dernier petit truc, on a annoncé hier, en fait, Trump a tweeté là, l'effet qu'il y a une entente avec le Japon sur les tarifs. Donc, les tarifs avec le Japon seront fixés à 15 %. Les titres de manufacturier automobile au Japon étaient tous en hausse d'une quinzaine de pourcents aujourd'hui. L'indice du Japon est en hausse de 3,5 % aujourd'hui seulement. Donc, ça donne un peu une idée. Là, je ne sais pas si la qualité de l'entente est en jeu ou juste le fait qu'il y a une entente puis on passe à d'autres choses. Je pense que c'est beaucoup ça. Là, si on enlève l'incertitude, puis la taille des tarifs semble secondaire au fait qu'on a finalement une entente.
Merci beaucoup, Martin. Qu'est-ce que je pense quand j'écoute toutes les nouvelles que tu nous as données aujourd'hui? Patience.
Exact.
On n'est pas super bon, toi et moi, pour ça, mais en investissement, on est très bon.
Ouais.
Donc, pendant longtemps, les frais de gestion étaient intégrés dans les produits financiers,
ouais.
souvent invisibles pour les clients, où les clients payaient des commissions pour chaque transaction. Donc, c'était vraiment un autre monde quand tu as commencé dans ouais. le métier. Cela rendait difficile pour les clients de comprendre ce qu'ils payaient réellement et à qui ils payaient.
Ouais.
Avec l'arrivée des FNB à bas coût, des plateformes numériques et des exigences, bien sûr, réglementaires accrues, les frais ont commencé à baisser. Les clients exigent de plus en plus de transparence et veulent comprendre la valeur de ce qu'ils reçoivent en échange.
Ouais.
Toi et moi, on est pour ça.
Ouais.
Je pense qu'on s'efforce très fort d'être très transparent avec nos clients. Mais est-ce que tu peux nous faire voyager un peu dans le temps ce matin et nous expliquer comment les frais et rémunérations fonctionnaient lorsque tu es devenu conseiller en 2001?
Oui, donc là, on recule quelques années dans le temps. En 2001, on était des courtiers. Hein? On était, en bon français, des brokers. On était là un peu comme un courtier immobilier qui est là pour faciliter une transaction. On était un peu l'accès au marché boursier. Les gens, là, ça commençait les plateformes de courtage en ligne. Les gens n'avaient pas beaucoup d'informations. C'était vraiment un principe de facturation à la transaction. Donc, on chargeait une commission à l'achat et à la vente. C'était comme ça que ça fonctionnait au niveau des actions. Au niveau des fonds communs de placement, ben, la famille de fonds, ça n'a pas vraiment changé. Là. La famille de fonds charge un frais de gestion là, autour de 2 % mettons, sur le fonds mutuel. Par contre, à l'époque, il y avait des frais de rachat. Donc, on recevait une rémunération là, souvent de 5 % au moment de l'achat. Le client ne payait rien. C'est la famille de fonds qui payait le conseiller. Par contre, il y avait une pénalité là, si le client revendait le produit dans les 6-7 premières années. Là, il y avait une pénalité.
Mais le client pouvait changer de fonds à l'intérieur.
C'est ça. Donc, c'était un peu contraignant. Il y avait beaucoup de transactions qui étaient faites là, au niveau des fonds mutuels. Puis quand on était pris dans un mauvais fond, ben, tu sais, en réalité, on était coincé là parce qu'il y avait une pénalité. Donc ça ces versions-là, ça n'existe plus. Là. Ça a beaucoup évolué. Fait que c'était vraiment, là, on était des courtiers. On est devenus maintenant des gestionnaires de patrimoine.
Absolument. Puis moi aussi, je travaillais dans l'industrie dans le temps, puis je me rappelle très bien. Puis tout le monde acceptait que ça fonctionnait comme ça.
C'était comme ça que ça
marchait. On a appris autrement. Donc, cela a évolué. Et donc, comme on a parlé tout à l'heure, comment est-ce que nous sommes rémunérés maintenant? Quels sont les autres frais? Comment ça fonctionne?
Ouais, donc maintenant, là, l'ensemble de l'industrie fonctionne principalement à honoraires. Là, la quantité d'actifs sous gestion qui est sujet à des honoraires est beaucoup plus importante maintenant que les actifs à commission. Donc, la différence, c'est plutôt que de facturer un frais à chaque fois qu'on fait une transaction, parce qu'en réalité, l'acte de faire une transaction, c'est pas ça qui a une valeur. Tu sais, acheter puis vendre un titre, ça prend 2 secondes. Les courtages à escompte, ils chargent plus pour ça. Ça vaut rien, là, faire une transaction. Qu'est-ce qu'une valeur? Ben, c'est les conseils, c'est l'accompagnement. Donc, la tarification en honoraire, on va facturer un honoraire, un pourcentage de la valeur des actifs sous gestion. Et ça l'inclut là, les transactions et les autres différents services. Il faut comprendre que quand on bâtit un portefeuille, on a différents choix. On peut acheter des titres individuels à la pièce, on peut acheter des fonds négociés en bourse et on peut continuer d'acheter des fonds mutuels. Donc, dans le cas des tarifications en honoraire, le frais de gestion d'un fonds mutuel qui est typiquement là, en moyenne 2 % là, quand on achète un fonds régulier. À honoraire, ben, normalement, le fonds est à peu près la moitié. Donc, on élimine, le fonds ne paye plus de rémunération au conseiller. C'est vraiment l'honoraire là, qui est la rémunération du conseiller. Et là, le frais de gestion du fonds va être autour de 1 % là. Ça dépend des fonds, là, mais il y en a à 0,75, il y en a à 1,25, peu importe. C'est autour de ça. Donc, c'est important de comprendre que le frais du produit continue de s'appliquer. Quand c'est un fonds négocié en bourse, il y en a qui sont à 0,05, 0,1, il y en a à 0,25, 0,50, ça dépend des produits. En réalité, depuis quelques temps, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase sur les frais et pas tant sur la performance puis les services qui sont donnés en échange de ces frais-là. Donc, il y a une espèce d'obsession sur les frais. Je pense qu'il était nécessaire. Tu sais, oui, dans cette industrie-là, dans notre industrie, il y avait quand même peut-être un peu d'abus il y a plusieurs années. C'est important que les clients s'attardent aux frais, mais avant de s'attarder aux frais, il faut aussi regarder bien, quels sont les services que j'obtiens en retour.
Est-ce que tu peux parler des services rapidement, Martin, juste donner une idée?
Donc, on est passé, on disait, on était des courtiers, on faisait des transactions, hein, on achetait pour vendre des titres. Maintenant, c'est beaucoup plus orienté sur la gestion de patrimoine. Donc, on fait la planification financière, on va faire l'optimisation fiscale, donc s'assurer que les bons titres sont dans le bon portefeuille. Est-ce qu'on a choisi des titres qui nous coûtent moins d'impôts là, par leur structure, soit d'aller chercher du dividende et du gain en capital au lieu du revenu d'intérêt. On va accompagner les gens dans leurs décisions de vie. Là. Nous, on se fait solliciter constamment. Les gens changent d'emploi, ils reçoivent un package de ressources humaines.
Et des fois, ils changent d'auto.
Changent d'auto, devrais-tu louer ou acheter? Est-ce que si je vends mon chalet, je devrais-tu donner à mes enfants de mon vivant au lieu de garder? Donc, toutes ces décisions-là... ça se reflète pas nécessairement dans la performance du portefeuille, mais au net, oui, ça a un impact sur notre valeur nette en bout de ligne. Il y a beaucoup d'importance aussi de le soutien émotionnel en période de volatilité. Là, la réalité et fidélité là, pour les nommer, ils ont fait un peu l'étude. Ils ont regardé quelle est la performance d'un fonds. Mais quelle est la performance moyenne des détenteurs de ce fonds-là? Puis il y avait un écart significatif. Pourquoi? Bien, parce que les gens achètent haut puis ils vendent bas, si on les laisse faire. Donc, il y a un accompagnement important d'encourager les gens à ne pas vendre en période de volatilité, de retenir un peu de quand ils ont un petit peu de peur de manquer le bateau. Là, en période un peu euphorique, des fois, de ralentir leurs ardeurs, puis en période un peu dépressive, de les encourager à demeurer investis. On fait de la révision testamentaire, on est des notaires, on a des coachs en transfert d'entreprise. Donc, on a vraiment là, beaucoup plus de services qu'en 2001, quand j'ai commencé.
Je pense que c'est vraiment que la vision de l'industrie a changé, comme tu as dit. On n'est plus des brokers, on est des gestionnaires de patrimoine. Donc, ça se doit qu'on doit aussi charger les frais différemment pour ça. Mais il y a encore, nous avons encore des clients à commission. Pourquoi?
Bien, un client que, on a des clients, ça fait 25 ans, sont nos clients, puis il était client de Régent, notre ancien associé avant ça. Donc, il y a des clients qui ont payé des frais, ils ont acheté, là, ils ont payé des commissions pour mettre en place le portefeuille. Là, ils ont tout le portefeuille en place. Quand on calcule, on fait encore des transactions, puis bon, ils sont en commission. Mais quand on calcule à la fin de l'année le total des commissions qu'ils ont payées, puis les frais des fonds, puis tout ça, bien, c'est encore moins cher que l'honoraire dans leur cas, parce que c'est sûr qu'un nouveau client qui arrive, il dépose un chèque, il y aurait un frais là, monstrueux là, de mettre le portefeuille en place à commission. Donc, en horaire, ça fait plus de sens. Mais quand on a déjà le portefeuille en place, il n'y a pas vraiment de transaction à faire. Ils ont fait déjà la planification financière. Ils ont déjà eu, passablement de services. Il faut être dans le modèle de rémunération qui est le plus avantageux pour le client, puis si c'est encore le modèle à commission.
Puis c'est toujours quelque chose qu'on doit réviser, qu'on doit se questionner dessus en regardant le portefeuille du client. Donc, c'est pas quelque chose qu'on dit « OK, le client est à commission, puis on le laisse comme ça ». C'est vraiment de réviser, puis de laisser la situation progresser avec le temps, puis voir qu'est-ce qui est meilleur pour le client.
Les deux modèles existent encore côte à côte. Oui, les honoraires sont beaucoup plus populaires, puis ça fait plus de sens dans la majorité des cas, mais il y a encore des clients à commission, puis ça fait du sens de demeurer à commission dans beaucoup de cas.
Puis ça aligne beaucoup nos intérêts aussi avec le client quand on est à honoraire. Quand le marché monte, bien, tous les deux, on fait plus d'argent. Quand le marché baisse, on souffre.
On souffre avec les clients, exact. Puis donc, ça fait qu'il n'y a pas d'autres rémunérations cachées dans ce cas-là. Le fait de choisir un titre plutôt qu'un autre, si je choisis un FNB ou un fonds commun de placement avec un frais plus élevé, ça ne change rien à notre rémunération, à nous. C'est parce qu'on pense que de payer ce frais de gestion-là à la compagnie de fonds va nous permettre d'avoir une meilleure expérience puis une meilleure performance. On verra dans le futur, on ne connaît pas le futur, mais c'est fait qu'on n'a pas de conflit d'intérêt inhérent à choisir un produit parce qu'il rémunère plus que l'autre. Il n'y a plus de différence.
Puis on veut aussi que nos valeurs de personnalisation, d'être sûr de prendre le client en compte quand on prend des décisions, soient bien alignées avec le modèle de rémunération que chaque client a. J'ai une autre question pour toi, et c'en est une grosse. Est-ce que tu peux nous parler de MRCC3?
Donc, ça veut dire qu'il y a eu MRCC1 puis MRCC2 avant ça. MRCC, modèle relation client conseiller. Donc, si vous entendez ça, là, MRCC, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est les autorités réglementaires là, qui se sont vraiment attardées justement aux frais, la rémunération, les différents services, à la divulgation. Donc, initialement, on a commencé à publier en 2017, je crois, finalement, là, l'obligation de publier les rendements des portefeuilles. Hein, juste de 2001 à 2017, les clients, oui, on avait des outils pour produire les rapports de performance, mais par défaut, là, le relevé officiel de portefeuille, il n'y avait pas de performance là-dessus. Donc, on était obligé de faire ça. Ensuite, il y a eu une divulgation sur les frais des produits. Donc, quelle rémunération on reçoit? Donc, quand on achète un fonds commun X, Y, Z, là, de dire, ben ce fonds-là, il charge un frais de 2 % mettons, puis Desjardins va recevoir une commission de suivi de 1 % ou c'est honorant, peu importe. Là, MRCC 3 qui s'en vient, donc il va être en vigueur en 2026. Donc, les premières informations vont être publiées au début de 2027, là, pour l'année 2026. Donc, ça va être de divulguer complètement les frais totaux des portefeuilles. Donc, présentement, ce qui est divulgué, ce sont la rémunération perçue par Desjardins sur le portefeuille du client, mais la portion de frais qui va à la compagnie de fonds mutuels, à Fidélité, à Manuviage, peu importe la compagnie, au FNB, si on achète des iShares ou des fonds des FNB Desjardins. Donc, ce frais de gestion-là, il n'est pas divulgué, autre qu'au moment de l'achat. Là. Donc,
c'est
on a l'obligation de le divulguer. Donc, ouais. L'aperçu de fonds qu'on vous envoie au moment de la transaction, on doit vous dire, OK, on achète tel fonds, le frais de gestion, c'est de 1,2, puis bon, on doit justifier là, pourquoi on fait ça. Donc, ça, c'est fait. Mais, tu sais, concrètement, là, à la fin de l'année, on ne sait pas trop ça a donné combien. Donc, ça, à partir de 2026, là, ça va être divulgué le frais total du compte en dollars et en pourcentage. Ils vont aussi finalement uniformiser les règles entre les conseillers comme nous, les plateformes en ligne et les compagnies d'assurance. Donc, il y avait quand même une certaine disparité entre, par exemple, les fonds distincts offerts par les conseillers en sécurité financière puis les fonds communs de placement offerts par toi et moi. C'était pas la même divulgation. Donc là, on vient un peu niveler le terrain pour dire ben tout le monde doit divulguer la même chose. Je pense que c'est une bonne chose. Puis vraiment, l'objectif, tu sais, c'est que les clients comprennent mieux qu'est-ce qu'ils payent et puis ils soient après ça en mesure d'évaluer, ben est-ce que j'en ai pour mon argent? C'est la même chose dans tout, hein. On peut acheter une Hyundai ou une Mercedes, tu sais, c'est deux voitures qui vont nous prendre du point A au point B. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui acceptent d'acheter une Mercedes? Ils perçoivent une valeur en fonction de l'argent qu'ils ont payé. Un autre ne va pas percevoir cette valeur. C'est correct, il y a un modèle d'affaires pour tout le monde. Mais l'important, c'est au moins d'être capable de faire cette évaluation-là. Voici ce que j'ai payé au complet. Voici ce que j'ai obtenu en retour. Donc, j'ai obtenu un rendement, j'ai obtenu une planification financière, d'un accompagnement fiscal. On répond au téléphone quand c'est plus difficile. Donc, j'en ai pour mon argent. T'sais, on espère que vous allez conclure que, que la valeur est que vous en avez effectivement.
On s'efforce en tout cas pour vous le démontrer. Ben merci beaucoup, Martin. C'est apprécié. C'est qu'un début sur ces discussions-là. On a fait des balados sur ce sujet-là, puis on en refera. C'est important pour nous que les clients comprennent qu'est-ce qu'ils payent et c'est quoi la valeur qu'on est capable d'ajouter. Donc, en 2025, les frais de gestion ne devrait jamais être un mystère. Grâce à des réformes comme MRCC 3, les clients sont mieux informés, mieux protégés, mieux outillés pour prendre des décisions éclairées. Si vous voulez discuter de ce balado ou mieux comprendre vos frais, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de cela avec vous et aussi de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.